Rien n'est joué.
Rien n'est joué.
Lydia Gabor.
Les saisonniers étrangers devançant les hirondelles nous reviennent ces jours après avoir passé les fêtes de Noël au pays. Des formalités les attendent à leur retour, visite sanitaire, octroi de permis, autorisation de séjour, etc. La reprise du travail était fixée au 11 janvier, mais la vie ne revient que lentement sur les chantiers, tous les ouvriers n'ayant pu recevoir à temps les papiers indispensables. Le manque de locaux et de personnel s'épite aussi dans l'administration, et là, Guido González peut difficilement remplacer Émile ou Fernand. Enfin, toutes ces difficultés vont rapidement s'aplanir et les saisonniers remplir à nouveau les chantiers, où leur présence est plus indispensable que jamais avec l'approche venue des beaux jours et le besoin croissant de nouvelles habitations.
Une archive de la TSR sur le retour des saisonniers en Suisse, c'était en 1965 et aujourd'hui, dans Rien n'est joué, c'est le chantier du bâtiment. Et comme disent les connaisseurs, quand le bâtiment va, tout va. Pourtant, on va le voir, le travail reste dur, la précarité au bout de la journée et la sécurité sur les chantiers laissent toujours à désirer. Après 2 mois de conflit en décembre 2007, patrons et syndicats trouvent en Suisse un accord satisfaisant. Flexibilité des horaires, hausse des salaires, gestion des pannes techniques ou des intempéries. Tout semble avoir trouvé une solution depuis février cette année, mais pour combien de temps? Et qu'en est-il des pays environnants? Dans le milieu, on dit que l'Italie, c'est le pire pour les conditions de chantier. Et en France, c'est la question qu'on va se poser ce matin avec Chantier interdit au public, sous-titre Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, en ouvrage signé Nicolas Jounin. Il est sociologue, maître de conférence à l'Université de Paris 8 et chercheur en laboratoire, l'unité de recherche migration et société. Bonjour Nicolas Jounin.
Bonjour.
C'est avec cette double casquette de sociologue et de chercheur en matière de migration que vous vous êtes glissé dans la peau d'un ouvrier intérim pendant plus de 3 ans.
Pas tout à fait. Enfin, l'enquête a été étalée sur 3 ans.
Oui.
Et au cours de ces 3 ans, j'ai donc passé 1 an sur des chantiers ou en formation lycée professionnel, des chantiers de grosses œuvres de béton armé à Paris, en région parisienne.
Et c'était votre manière d'entamer cette enquête, en tout cas une partie de l'enquête, payée de votre personne?
Oui, pas pour le plaisir de payer de ma personne, pas pour me sacrifier ou quoi que ce soit, tout simplement parce que le bâtiment, les chantiers, c'est un univers méconnu, qu'on a à notre disposition dans la panoplie des méthodes de la sociologie, ce qu'on appelle l'observation participante. Donc on va dans le milieu qu'on veut étudier, on participe, on fait la même activité que les gens, et là on observe les chantiers, bien qu'ils soient en extérieur, sont en fait difficiles à pénétrer, difficiles à observer, et donc le moyen le plus simple, en quelque sorte, c'était d'y travailler.
Et pourquoi vous avez choisi cet univers, justement, méconnu, et avec cet angle de la migration, parce que c'est présent en permanence dans votre enquête?
Alors, moi, je l'ai choisi à titre personnel en n'y connaissant rien, et en partie pour cette raison. L'angle de la migration, alors c'est vrai que institutionnellement, j'étais préparé à le voir. Mais si j'étais pas préparé, une fois arrivé, voyant que 90% des effectifs des chantiers sur la partie gros œuvres étaient constitués d'immigrés, j'aurais bien dû finir par m'y intéresser. Donc, à m'intéresser au fait que donc il s'agissait d'immigrés, pour un certain nombre d'entre eux d'étrangers, qui implique des statuts particuliers avec des titres de séjour plus ou moins précaires et pour un certain nombre d'entre eux aussi pas de titre de séjour, ce qui est aussi à étudier. La migration...
C'est ce qu'on appelle les sans-papiers, non, quand il n'y a aucun titre.
Ce qu'on appelle
les sans-papiers, dont on parle beaucoup en ce moment en France d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Mais comment, plus pratiquement, je veux dire, ce quotidien du chantier, comment vous vous y êtes adapté et qu'est-ce qui vous a frappé à première vue?
La première chose, c'est que le quotidien des chantiers, pour moi, il a été assez difficile à pénétrer. J'ai donc cherché à me faire embaucher en intérim, en ne connaissant rien donc au bâtiment, donc en arrivant sans qualification, en demandant un travail de manœuvre, ce qui paraît logique quand on n'a pas de qualification. Mais il faut bien voir qu'un certain nombre de manœuvres dans le bâtiment, bien qu'on ne leur reconnaisse aucune qualification, ont un grand professionnalisme parce que bloqué à cette position de manœuvre pendant des années, ils manient beaucoup mieux le marteau-piqueur, la pelle ou un tout autre outil que peut peu manier le manœuvre que moi je ne le faisais. Donc ça, c'était mon premier handicap. Le second, c'est que je suis blanc, alors que la plupart des manœuvres du bâtiment sont des immigrés ouest-africains, souvent maliens. Et que on a une sorte de discrimination inversée pour ce poste très particulier, avec des commerciaux d'intérim qui vont dire, j'en ai interviewé un certain nombre, par exemple, je pense à un commercial d'intérim qui disait, entre le beauf, c'est-à-dire dans son langage le français, et le boubou, il faut comprendre l'immigré ouest-africain, c'est clair que je vais prendre le boubou, parce que lui, il va se lever à 4h du matin, lui, il va traverser tout Paris pour aller à l'autre bout de Paris sur le chantier, lui, il va pas râler si le chef lui vole dans les plumes, etc., etc. Donc, une forme de discrimination inversée qui m'a un petit peu pénalisé au début. Il faut préciser tout de suite que ça ne m'a pénalisé qu'au début, que cette discrimination n'est pas favorable, bien sûr, parce que c'est aussi une assignation à un poste. Il y a que les Maliens pour faire le marteau-piqueur, mais en sens inverse, les Maliens ne sont bons qu'au marteau-piqueur. C'est un peu ce qui circule dans l'imaginaire de ces commerciaux d'intérim. Donc à partir du moment où moi j'ai pu m'implanter, mettre un pied dans les chantiers, on m'a vite fait comprendre, en revanche, que ma couleur de peau blanche et ma carte d'identité française pouvaient faciliter une promotion.
Alors on va analyser ce racisme dont vous parlez beaucoup, qui est presque inhérent dans ce monde du chantier du bâtiment. Mais j'aimerais savoir, pendant ces 3 ans, est-ce que votre carrière, entre guillemets, sur les chantiers a évolué? Je veux dire, est-ce que vous avez reçu une formation? Est-ce que vous avez acquis de l'expérience et donc un meilleur statut? Ou vous commenciez à chaque fois au début, depuis le début?
Je suis beaucoup resté au même niveau, mais en réalité en faisant des tâches très différentes. C'est-à-dire qu'en restant au niveau de manœuvre, j'ai fait aussi bien des tâches spécifiquement manœuvre et où malgré tout on n'apprend pas grand-chose, à faire du marteau-piqueur toute la journée ou à nettoyer des gravats toute la journée, et puis des tâches d'aide, donc d'aide coffreur ou d'aide ferrailleur. Un coffreur, c'est celui qui fait le moule où on va couler le béton, qui pose les panneaux des murs, qui prépare les planchers, etc., les coffrages des planchers. Le ferrailleur, c'est celui qui met les armatures qui pose les armatures du béton armé. Donc j'ai fait un peu tous ces métiers-là en tant qu'aide, et ma toute dernière mission, mon dernier mois d'observation, j'ai pu le faire en tant qu'ouvrier qualifié ferrailleur. Dans un contexte un tout petit peu particulier aussi, qui a favorisé cette progression, c'est que le chantier sur lequel j'ai été envoyé en catastrophe en milieu de semaine par une agence d'intérim, comme une dizaine d'autres intérimaires ferrailleurs, parce que un contrôle de police avait décimé l'effectif et que sur 15 ferrailleurs présents, chef compris, une dizaine avait disparu parce qu'ils étaient sans papier et qui donc soit ils avaient été arrêtés, soit ils avaient réussi à s'enfuir.
Est-ce que vous avez dit d'emblée que vous étiez en train de faire une enquête ou vous avez gardé votre recherche discrète sur le terrain?
Je l'ai gardée plutôt secrète, en particulier vis-à-vis de mes employeurs, qu'il s'agisse des agences d'intérim qui m'employaient ou des chefs de chantier, des directions de chantier qui m'utilisaient concrètement sur le chantier. À part un stage où je l'ai fait savoir à l'employeur et donc j'ai fait savoir à l'ensemble des ouvriers immédiatement, ce qui n'a pas d'ailleurs forcément beaucoup changé le statut qu'on m'a donné.
Parce qu'ils s'en fichent en fait, ils vous prenaient pour le travail pour lequel vous étiez là.
Voilà, exactement. Et même, je crois que ma démarche n'avait pas été très bien comprise. La sociologie est un environnement lointain du bâtiment. À la fin, le patron voulait m'embaucher et de leur côté, les ouvriers continuaient de me conseiller, comme quand j'étais enquêteur inconnu, de me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là en français? Ça devrait pas être dans la ferraille. Tu devrais faire autre chose, un métier plus propre, etc. etc. »
Donc, pour finir, vous avez vu qu'on vous a pris vraiment pour un ouvrier. On s'est dit « Tiens, il fait ça. Pourquoi il essaie pas de faire mieux vu qu'il est français ?»
Voilà, c'est ça. C'est donc c'est une situation un petit peu ambiguë. Il faut négocier sa place. Où donc à la fois, oui, j'étais pris pour un ouvrier puisque j'étais là et que je faisais bien le travail. Et puis en même temps, avec ma couleur de peau, encore une fois, mon patronyme, ma carte d'identité, il y avait quelque chose d'assez inexplicable dans des métiers comme par exemple le ferraillage où on pouvait entendre un certain nombre de gens qui disent. Quand j'aurai mes papiers, je partirai. Je partirai de la ferraille, j'irai faire autre chose. Je préfère aller à l'usine que rester ici. Donc ça paraît un petit peu étrange qu'un Français qui n'a pas les mêmes obstacles, qui n'a pas les mêmes difficultés administratives, se retrouve là.
Nous sommes en compagnie de Nicolas Jounin et son livre intitulé « Chantier interdit » jusqu'à 11h. Bienvenue à vous.
Rien n'est joué, Lydia Gabor.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'embête pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut. Et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace. Alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques. C'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits-enfants espérés apparaissent. Dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse. C'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise. Quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez. Je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère. Les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
Quatre murs et un toit, Benaberg sur Radio Suisse Romande, la première, où nous immisçons dans l'univers des chantiers du bâtiment avec Nicolas Jonin. Et une des premières étapes avant d'arriver sur le chantier, c'est de faire le tour des agences, des agences d'intérim, vous l'expliquez très bien. Dans la mesure où c'est un peu une jungle, il faut avoir un peu ses entrées par-ci, par-là, parce que chaque agence a ses ouvriers qu'elle connaît un petit peu. Alors, comment ça s'est passé pour vous?
Alors plus qu'une jungle, c'est plutôt un marché incarné en quelques rues, un marché qui devient un espace concret, puisque l'ensemble des agences, enfin une bonne partie des agences du bâtiment en Île-de-France se retrouvent concentrées dans un quartier de Paris autour du boulevard Magenta, des gares de l'Est et du Nord. Et donc on trouve tout au long de la journée, et plus particulièrement à certains moments, tôt le matin, en fin d'après-midi, et en particulier le vendredi après-midi, des centaines de candidats qui arpentent ces rues, qui vont d'une agence à l'autre, qui entrent des fois furtivement demander est-ce qu'il y a du boulot, on leur répond non, des fois on leur demande quelle est leur qualification, ça peut aller un peu plus loin. Donc on a à la fois cette main d'œuvre effectivement très tournante, qui recherche des missions un peu au jour le jour, et puis en réalité, les agences ont aussi ce qu'elles appellent leur noyau, un certain nombre d'intérimaires qui à la limite ne passent plus ou beaucoup plus rarement dans l'agence, qui sont fidélisés, qui travaillent quasiment en permanence pour ces agences, qui peuvent prendre leurs congés, négocier, etc. Donc ont des formes de carrière informelle à l'intérieur de cette forme d'emploi qui apparaît assez précaire.
Il y a plein de subtilités puisque vous racontez que certaines agences font revenir les ouvriers en fin de journée pour voir s'ils sont vraiment motivés, pour qu'ils redemandent, est-ce qu'ils veulent vraiment travailler. Est-ce qu'il y a aussi le risque que l'agence prend que l'ouvrier n'y aille pas ou qu'il aille vers une autre agence qui lui propose quelque chose de mieux et puis elle s'est engagée auprès de l'entrepreneur. Donc c'est assez subtil comme jeu.
Tout à fait. Les métiers du bâtiment sont des métiers difficiles, exigeants, avec beaucoup d'heures supplémentaires, souvent pas mal de transports. Les chantiers sont pas forcément à côté. Donc, les qualités qui sont demandées aux ouvriers sont pas que des compétences professionnelles, mais aussi en quelque sorte des compétences sociales, de disponibilité, de fiabilité, voire certains diront de docilité. Et ça s'éprouve, ça se vérifie. Pas dans des CV, pas dans l'exhibition de diplômes ou de certificats de travail, mais dans le fait de montrer, de passer plusieurs fois dans l'agence, de montrer sa bobine plusieurs fois, de dire on est là, je suis ponctuel, disponible, assidu. Et c'est ça que cherchent à tester effectivement les agences. Donc les intérimaires accomplissent, avant même d'avoir trouvé un travail, un immense travail, complètement gratuit, lui, complètement invisible, mais un immense travail de mise en rencontre de l'offre et de la demande, puisque c'est eux qui font le tour des agences et qui se présentent, qui concrètement mettent en place la rencontre de l'offre et de la demande de travail.
Et le deuxième point, ce sont les papiers. Et là, vous racontez une scène juste hilarante autour de faux papiers, parce qu'ils ont, la plupart ont des faux papiers, mais certains semblent plus faux que d'autres, et ça passe pas.
Il ne faut pas dire que tous les intérimaires, enfin, ou même la majorité des intérimaires sont sans papier, mais dans ce sous-secteur très particulier, les agences d'intérim sont le biais par lequel on fait passer les... Enfin, sont l'agent fournisseur de sans-papiers, en quelque sorte. C'est bien pour ça que là, donc, on a un mouvement en France actuellement de grève de sans-papiers, mais qui ne concerne que des gens qui sont directement embauchés et non pas qui ne sont intérimaires. Et c'est pour ça qu'on a assez peu, je pense, d'ouvriers du bâtiment qui sont concernés par ce mouvement.
Ça veut dire quoi, directement embauché? Ça veut dire directement embauché sur les chantiers? Ils passent même pas par des agences, c'est ça que vous voulez dire?
Non, ce que je veux dire, c'est que le lien, le contrat de travail est entre l'entreprise de bâtiment et l'ouvrier. Tandis que là, par le biais de l'intérim, il y a un contrat entre l'entreprise de bâtiment et l'agence d'intérim, et ensuite un contrat entre l'agence d'intérim et le salarié. Il n'y a pas de lien juridique direct entre l'entreprise qu'on appelle utilisatrice et le salarié intérimaire.
Donc c'est l'intérim qui prend la responsabilité des papiers, en fait, enfin des faux papiers ou pas faux papiers.
On peut dire qu'il y a une forme d'externalisation des illégalités, notamment, donc c'est-à-dire en sous-traitant l'emploi de la main-d'œuvre, on sous-traite aussi un certain nombre d'illégalités qui sont commises. Alors une de ces illégalités, c'est effectivement d'employer des sans-papiers. En réalité, donc des gens qui ont souvent soit travaillent avec les papiers de quelqu'un d'autre, soit présentent des faux papiers. À l'époque, je dis bien à l'époque parce que les choses changent vite en France, notamment depuis juillet 2007, mais à l'époque, il suffisait de montrer des faux papiers qui assez grossiers, qui s'achètent 150 à 300 euros, qui permettent de donner le change. Personne n'est vraiment dupe, mais si jamais l'agence d'intérim était confrontée à un contrôle, elle peut montrer une photocopie de faux papiers en disant « Ah, je ne savais pas qu'ils étaient faux, j'ai été dupé ». Mais ça implique aussi que les faux papiers ne soient pas trop faux. Et effectivement, cette fois-là, un intérimaire avait présenté des papiers et la commerciale d'intérim lui dit « Ah non, là quand même, ils sont pas roses, ils sont fuchsia ». Donc, revient avec des faux papiers plus propres.
Voilà, il faudra payer un peu plus cher pour avoir quelque chose de meilleure qualité. Mais de façon un peu plus globale, on a à la fois l'impression qu'il y a pénurie de main-d'œuvre pour le chantier. Comme vous disiez, c'est un travail difficile, avec une grande précarité. Et en même temps, on a l'impression que les ouvriers, ils n'ont pas tellement le choix. C'est-à-dire que c'est comme si, au contraire, on n'avait pas trop besoin d'eux. Et puis finalement, c'est eux qui doivent faire beaucoup d'efforts pour se faire embaucher. Pourquoi ?
Je pense que cet argument de la pénurie de main-d'œuvre, il faut... au moins le nuancer, le relativiser, dans la mesure où c'est un argument qui existe quasiment depuis... ce discours de la pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment existe quasiment depuis la fin du 19e siècle. Et sans remonter jusque-là, Francis Bouygues, en 1964, écrivait un texte sur la pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. Et on peut se poser la question, enfin, tous ces gens-là qui écrivent sur la pénurie de main-d'œuvre connaissent comme moi la loi de l'offre et de la demande. Si on n'a pas assez d'offres de travail... Normalement, on augmente le prix, on augmente les salaires, on améliore les conditions d'emploi, de travail, de rémunération. Et logiquement, la pénurie de main-d'œuvre devrait être résorbée. Si on n'augmente pas les salaires, etc., c'est parce que, au fond, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas si criante et qu'on finit toujours par trouver. En revanche, cette pénurie de main-d'œuvre, du coup, est une manière de dire les ouvriers qu'on utilise pour l'instant, effectivement, sur les chantiers, c'est pas des ouvriers qu'on veut, parce que c'est des mauvais ouvriers. C'est souvent le discours qui revient.
C'est terrible.
Oui, et c'est pas des bons, mais on va pas chercher à les valoriser, on va pas chercher à améliorer les conditions, puisque justement c'est pas de cela qu'on veut, et on attend le moment où on va résorber la pénurie de main d'œuvre. En attendant, c'est quand même ceux-là qui construisent nos bâtiments.
Oui, mais c'est ça, parce que ça c'est un leurre, c'est un jeu psychologique. On leur fait, on leur donne l'impression, on reconnaît pas leur valeur pour qu'ils ne viennent pas protester et puis demander plus.
Voilà, il y a une illégitimité qui pèse sur eux. Ils sont présentés en permanence en fait comme des bouche-trous en attendant la fin de la pénurie, des expédients. Et ça, c'est donc un discours qui a une correspondance avec la situation précaire, donc précaire du point de vue de l'emploi, on pourra peut-être revenir sur les formes d'intérim qui sont assez spécifiques, et précaire du point de vue du séjour, puisqu'il s'agit d'étrangers qui souvent ont des titres de séjour précaires, des titres de séjour d'un an, voire n'ont pas de titre de séjour.
Nicolas Jounin, je vous propose une petite entrée dans un chantier lausannois avec les ouvriers au moment de la pause. C'était au micro de Blaise Angèle.
Vous trouvez que votre travail est difficile ?
Un peu difficile. C'est normal.
C'est quoi qui est difficile dans votre travail ?
C'est trop dur.
Ouais, c'est
il y a beaucoup de poids, c'est ça, un problème. Le reste, ça va bien. La construction, je pense, c'est tout dangereux. Moi, je ne fais pas peur. Si je tombe.
Assurance,
c'est vrai.
S'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe ?
Ah, je sais pas. Si on crève, on crève.
J'ai fait déjà 20 ans et jamais vu un accident.
Genre primaire. Oui. Ouais.
Oh, il y a des copains qui travaillent 2 ou 3 jours et ils tombent.
Ils demandent aussi beaucoup plus de rendement pour de la brique. Pour une dalle, on attend le temps pour la bétonner. T'es d'accord?
Ça veut dire que ça a changé, ça? Avant, c'était pas comme ça?
Non, il changeait beaucoup. Avant, plus pire. Non, déjà, maintenant, il change.
Ça fait combien de temps que vous êtes ouvrier?
Ça fait une vingtaine d'années.
Donc, ça veut dire que vous avez vu toute l'évolution?
Un petit peu, oui.
Qu'est-ce qui a changé en 20 ans?
Oui, on serait plus. Je dirais qu'on est plus organisé.
Mais plus organisé, ça veut dire que vous avez plus de contremaîtres?
Non, je ne vais pas juste là. Je dirais que on est plus organisé quand même.
Mieux organisé alors.
Organisé,
parce que des fois plus, c'est pas mieux.
Ouais.
Ici, c'est mieux. Est-ce que vous trouvez que vos horaires sont difficiles?
Non. Je trouve que c'est un horaire assez correct, assez dans la limite. J'ai rien contre.
Et puis, le fait donc de travailler 5 jours par semaine, c'est toujours comme ça sur les chantiers, on travaille 5 jours par semaine? Il n'y a pas des chantiers où on travaille en continu parce qu'il faut finir?
Je ne connais pas.
Pas ici. Est-ce que vous avez tous le même type de contrat?
Non.
Ça, c'est le patron.
On travaille.
Ça, chacun y a les siennes.
Donc, c'est des genres de contrats qui sont différents.
Ça dépend
de quoi?
Bon, s'il y a beaucoup de travail là, s'il y a beaucoup de travail de l'autre côté.
Il y a deux trois qui changent un peu, mais le reste, c'est toujours. Dis la vérité, nom de Dieu. Non, dis-vous. Non.
Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien payé?
Vous savez qu'on fait, il faut donner un peu plus.
Même chose.
C'est tout le monde différent, je pense.
Grosso modo, tout le monde, il y a une différence, donc il n'y a pas de souci.
Mais la différence, elle tient à quoi?
Le manœuvre, au maçon A, au maçon B.
Quand j'ai discuté, donc moi, je suis bien payé.
Si vous, vous êtes bien payé, donc ça veut dire évidemment que d'autres sont moins bien payés.
Je ne veux pas savoir.
Pourquoi ?
C'est pas mes oignons.
Je pense que si je vous demande d'articuler un chiffre, c'est difficile.
Non, je ne vais pas vous le donner. Non, c'est la règle, et puis bon, restons comme ça.
Là, avec les personnes plus anciennes peuvent toucher un peu plus que si c'est un jeune, vis-à-vis qu'ils ont plus d'expérience. Mais tout dépend aussi, ça dépend des patrons derrière, c'est ça.
Si vous pouviez demander une amélioration sur vos conditions de travail, vous choisiriez quoi ?
Pas grand-chose, parce que ben, le bâtiment, il doit suivre comme ça. Et, on ne peut pas demander au bon Dieu qu'il vienne le faire. Hein, c'est nous-mêmes qu'on doit le faire. On le faire ce boulot, et puis c'est comme ça.
Là, on va faire une partie de carte. On va jouer pour la carte.
En suédois, hein.
C'est un jeu portugais.
On
joue les cartes, on ne parle pas de travail. On arrête de, de parler de travail.
C'est pour jouer les cartes.
Voilà.
C'est bon.
Incursion sur un chantier lausannois à la pause de midi, réalisation signée Carmen Algarada. Nicolas Jounin, vous avez remarqué qu'il y a des moments très différents dans ce reportage. Au moment où on commence à parler des contrats et enfin des chiffres de salaire et tout, ça s'anime tout d'un coup et pourtant on n'en sait pas plus.
Oui, ça s'anime, mais ça reste effectivement très elliptique. C'est pas évident effectivement d'entrer dans ce genre de considération, d'où l'avantage que j'ai eu aussi d'expérimenter directement et de comprendre en regardant mes propres contrats comment ça fonctionnait. Il y a je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans le bâtiment suisse. Il y a dans le bâtiment français, dans le gros œuvre en région parisienne, une segmentation des statuts très claire entre des ouvriers d'une entreprise générale. Donc l'entreprise générale, c'est celle qui prend, qui dirige les grands chantiers, dont on voit le pavillon qui flotte en haut de la grue, qui a ses couleurs sur la grue, c'est Bouygues, c'est GTM, c'est Vinci, c'est ces grands groupes qu'on connaît, qui sont d'ailleurs des leaders mondiaux. Et puis ensuite, il y a des sous-traitants, donc plus souvent des petites entreprises. Et puis, il y a des intérimaires. Donc l'entreprise générale a ses intérimaires, qu'elle va recruter dans différentes agences d'intérim, pas dans une seule. Et puis, les sous-traitants ont eux-mêmes leurs intérimaires, même chose, qui vont recruter dans différentes agences d'intérim. Éventuellement, il y a aussi d'autres rangs de sous-traitants. Ce qui fait que pour 50 personnes, on a déjà une dizaine d'employeurs. Donc quand les salariés là qu'on entend disent « ça dépend des employeurs », effectivement, dans le bâtiment français, c'est vrai que ça dépend en partie des employeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire malgré tout ? C'est que évidemment plus c'est que dans l'intérim, du point de vue des contrats, dans le bâtiment français, la loi n'est pas respectée. Que dit la loi ? Que le contrat, on doit le signer dans les 48 heures du début de la mission, et que donc la fin de la mission est fixée. C'est un contrat à durée déterminée. Donc on peut dire c'est précaire, on peut dire mais c'est intermittent. Mais du moins quand on démarre, normalement, on sait quand ça finit. En réalité, ce qu'on observe sur les chantiers français, c'est pas du tout ça. C'est on ne signe pas de contrat, ou à la rigueur on le signe en fin de mission, ce qui signifie qu'on peut être envoyé du jour au lendemain. Et donc c'est pas du tout un contrat à durée déterminée, mais c'est une précarité à durée indéterminée, puisqu'en fait on peut malgré tout travailler pendant très longtemps, mais tout en ayant cette incertitude qui plane.
Et on remarque dans la discussion, mais vous le dites aussi dans votre bouquin, que finalement les ouvriers de chantier ne se révoltent pas. Il y a un moment où quelqu'un a dit dans le reportage « le bon Dieu ne peut pas faire le travail pour nous ». Pourtant, c'est un travail hyper dur, avec beaucoup d'insécurité. Insécurité, j'entends, sur le chantier lui-même, au-delà de la précarité. Et pourtant, on accepte que c'est comme ça. Et on discute pas et on est debout pendant toute la journée, parce que vous racontez aussi avec beaucoup d'humour qu'il faut surtout pas s'asseoir et surtout pas s'arrêter. Il faut être toujours en mouvement. Qu'est-ce qui fait que ces gens ne se révoltent pas ?
Je pensais en arrivant sur les chantiers que les gens ne se révoltaient pas, parce que j'avais lu quelques ouvrages. Et il est vrai que jusqu'aux années 30 en France, les ouvriers du bâtiment étaient une sorte de fer de lance du mouvement syndical. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, même en mai 68, alors qu'il y avait la grève générale, il y a très peu de chantiers qui ont fermé. Aujourd'hui, la syndicalisation est très faible et ça ne tient pas qu'au fait que le bâtiment est un milieu de petites entreprises. Même dans les grosses entreprises, c'est pas évident. Il y a peu de syndicalisme. Donc, il y a peu de contestations organisées et collectives. De là à déduire qu'il n'y a pas de contestation, c'est un pas que je franchissais trop facilement à l'époque, et sur lequel je suis revenu par la suite, parce que au quotidien, on observe tout un tas de résistances, alors éparpillées, individuelles, etc., mais qui prennent plus la forme de la défection que de la contestation organisée, de la défection individuelle. Donc c'est « je ne viens pas au chantier », c'est « j'arrive en retard », c'est
« je me cache aux toilettes
».« Je me cache aux toilettes, éventuellement oui. ». Je manifeste un dégoût du travail bien fait, parce que je trouve que les conditions d'emploi sont telles que ça vaut pas le coup de s'investir, qui risque au bout d'un moment de pénaliser la production. Donc il y a tout un tas de petites révoltes individuelles comme ça, et principalement de fuites. Hein, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure de ces ferrailleurs qui disent « quand j'aurai mes papiers, je m'en vais », et qui effectivement, pour un certain nombre, le font. Donc quand les employeurs parlent de pénurie de main-d'œuvre, il y a une forme de réalité, c'est la fuite. La fuite et la fuite des bons ouvriers qualifiés, puisque ces ferrailleurs qui partent, parce qu'ils ont obtenu des papiers, ça veut dire que ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont là. Donc si ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont là, ça veut dire qu'ils ont acquis une certaine expérience. Ils vont être remplacés par des ferrailleurs qui sont moins bons.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Nicolas Jounin, Chantier interdit au public. On va écouter les Beatles et ensuite on va voir toute la problématique de la sécurité sur les chantiers.
Rien n'est joué jusqu'à 11h sur la première.
Working class
Working Class Heroes, c'est une un disque collectif qui est une sorte d'hommage à John Lennon. Là, on va retourner sur la problématique des chantiers avec Aldo Ferrari, secrétaire syndical de l'UNIA, toujours au micro de Blaise Angel.
Alors, on se trouve sur un chantier lausannois, extrêmement calme, c'est la pause de midi. Ici, les conditions de travail sont bonnes.
Ici, les conditions de travail, c'est une entreprise qui, effectivement, en principe, s'occupe bien de son personnel. Ici, on le voit, un bon contremaître qui a bien organisé son chantier, hein, où il y a de l'ordre et de la sécurité. Ce n'est pas toujours le cas, mais ici, disons, c'est un chantier qui est bien tenu.
De l'ordre, de la sécurité, j'imagine qu'il y a des contrôles qui sont faits.
Alors absolument, il y a des contrôles qui sont faits, d'une part par la CNA, c'est son travail, et puis d'autre part aussi dans ce canton par des inspecteurs que nous avons mis en place entre patronat, syndicat et État pour contrôler effectivement les problèmes de sécurité, mais surtout les conditions de travail illégal, etc.
Travail au noir dans le secteur de la construction, ça c'est un problème j'imagine assez...
C'est un problème récurrent, c'est un problème qui n'en est encore certainement pas au niveau de celui qu'on connaît de certains pays européens comme l'Italie, mais disons effectivement c'est un des soucis en particulier chez les sous-traitants, hein, des grandes entreprises qui sous-traitent le travail, je pense au domaine du ferraillage ou du coffrage, là effectivement il y a énormément de travail clandestin, de travail au noir, de gens sous-payés, de charges sociales impayées, c'est effectivement un domaine difficile qui avec la libre circulation, si je pense en particulier encore à l'artisanat, où c'est souvent encore pire.
Alors la libre circulation laisse entendre évidemment que beaucoup de travailleurs arrivent, et bien en particulier de toutes les régions d'Europe. Est-ce que le travailleur nouveau est arrivé ?
Alors je pense que le saisonnier nouveau est arrivé depuis la sortie de la crise du bâtiment où évidemment d'une part il y avait moins de saisonniers mais d'autre part maintenant avec la libre circulation on a supprimé ce statut, ce qu'on peut saluer puisque maintenant même les nouveaux saisonniers peuvent venir avec leur famille. C'est vrai que nous retrouvons maintenant des pays de l'Est et de l'Union européenne, le nouveau saisonnier est effectivement arrivé.
Avec quelle formation est-ce que ces travailleurs arrivent ?
Alors le problème, c'est que ces travailleurs arrivent souvent sans formation, ce qui effectivement crée un certain nombre de problèmes, des problèmes de sécurité d'une part, et c'est pour ça que nous, comme syndicat, on s'engage pour la formation de ces gens, à commencer par la langue, hein, et vous l'avez certainement pu constater, ces travailleurs ne parlent pas forcément très très bien la langue, et nous voyons maintenant que les cours que nous organisions dans les années 80, 70, 80 de langue, qu'on avait interrompu puisqu'il n'y avait plus de demande, eh bien ça recommence. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça confirme ce que vous avez dit, le saisonnier nouveau est arrivé.
Nicolas Jounin, on va parler toujours et encore sécurité sur les chantiers. Vous le soulignez comme un point vraiment crucial. Il y a plusieurs acteurs dans ce processus de sécurité. Il y a les chefs de chantier, il y a les inspecteurs du travail qui viennent contrôler assez souvent et les ouvriers eux-mêmes. Et finalement, d'être conscient des normes de sécurité ferait partie d'une certaine formation, comme on l'a entendu dire par Aldo Ferrari. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer sur le terrain ?
C'est important de dire que les ouvriers participent de la gestion de la sécurité parce que c'est un peu souvent le chaînon oublié, bien qu'ils en soient les bénéficiaires théoriques des règles de sécurité et puis aussi les exécutants. Bon, donc c'est effectivement un point crucial puisque le bâtiment reste un gros pourvoyeur d'accidents, bien supérieur à sa taille, en termes de sécurité, c'est vraiment l'un des secteurs les plus dangereux.
Vous racontez, excusez-moi, je vous interromps parce que ça va bien dans la conversation de le dire maintenant. Vous racontez qu'il y a des chantiers où on met des panneaux 140 jours, 140e jour sans accident, etc. pour montrer à quel point c'est une performance des journées sur le chantier sans accident.
En l'occurrence, sur le chantier où j'ai vu, c'est souvent sur les chantiers, mais sur ce chantier-là dont je parle, où j'arrive, donc sur le chantier, il y a écrit 146e jour sans accident. Mm-hmm. Le gardien du chantier m'apprendra qu'en réalité, s'il y avait un accident. En l'occurrence, il s'agissait d'un sous-traitant. Donc, est-ce pour ça que l'entreprise générale estimait qu'il n'y avait pas eu d'accident? Je ne sais pas, mais enfin, la personne est restée un an à l'hôpital tout de même, ayant pris une charge de ferraille dans le dos.
Donc, vous voulez dire que si c'était un sous-traitant, ça comptait moins par rapport au fait qu'il y avait eu un accident que si ça avait été quelqu'un avec un contrat fixe.
Je ne sais pas exactement dans quelles conditions ça s'est fait. En tout cas, ça veut dire que le panneau était fictif. Quelques semaines plus tard, il y a un chef d'équipe qui tombe, qui se casse la figure, qui se casse la jambe. Le panneau disparaît, il est remisé dans un coin du chantier et on a arrêté de l'exhiber. Donc, il y a un peu une mise en représentation comme ça de la sécurité qui correspond pas forcément à ce qui se passe, parce qu'effectivement, c'est un thème important. On en parle beaucoup. Après, moi, je ne prétends pas donner des leçons techniques sur les questions de sécurité. En tant que couvrier de chantier, j'étais très insouciant, voire négligent, parce que j'avais peu d'expérience, comme pour tout le reste, peu de savoir-faire. Et j'étais impressionné par un certain nombre d'ouvriers, de chefs d'équipe, de chefs de chantier, de conducteurs de travaux, qui, eux, avaient un savoir-faire accumulé, une expérience, et qui pouvaient voir à des dizaines de mètres un trou mal bouché ou un garde-corps qui était mal mis. Mais ces mêmes chefs qui avaient cette expérience incarnaient aussi une contradiction entre des exigences de cadence d'un côté et des règles de sécurité de l'autre. Et les unes et les autres, les exigences de cadence et les règles de sécurité, sont imposées, et le fait qu'elles soient remplies ou pas est vérifié par ces cadres et par ces directions. Et donc les ouvriers sont constamment soupçonnés de déroger d'une part à la cadence, d'autre part aux règles de sécurité. Et effectivement, les ouvriers ne peuvent pas faire autrement pour respecter les exigences de cadence, de ne pas respecter un certain nombre de règles de sécurité.
Mais pourquoi ? Parce que la sécurité ralentit le travail. Je veux dire, si on veut le faire avec la plus grande sécurité, on arrive à produire moins. C'est ça le problème ?
Nécessairement. Nécessairement, je pense à un conducteur de travaux qui me disait un chantier, si on veut le faire dans la sécurité, il faut le faire en 20 mois, mais si notre concurrent dit qu'il le fait en 18 mois, on est obligé de s'aligner, on le fait en 18 mois et on n'arrive pas à vendre la sécurité à notre client. Donc les entreprises savent bien qu'il y a une contradiction entre cadence et sécurité, mais cette contradiction, elle la reporte sur les ouvriers qui du coup l'assume clandestinement, c'est-à-dire que pèse sur eux cette injonction paradoxale, d'un côté la cadence, de l'autre la sécurité, et à eux de se débrouiller pour ne pas respecter les règles de sécurité. Et le paradoxe, c'est donc que ces règles de sécurité qui sont théoriquement faites pour les protéger, ils ne les respectent pas, ils se cachent des cadres pour ne pas les respecter.
C'est-à-dire que, c'est très tordu d'une certaine manière, parce qu'ils prennent la responsabilité de pas les respecter en priant que rien n'arrive. Enfin.
Voilà. Et donc le jour où il y a effectivement un accident, là, on va les accuser, on va mettre en accusation au cas par cas des gestes individuels, et on aura beau jeu de le faire, parce que ce sont toujours effectivement des exécutants qui ont mal vissé, qui ont mal posé, qui ont mal cloué, puisque par définition, ce sont eux qui sont là-dessus, sans mettre en cause le cadre organisationnel de ces gestes. Fautif. Donc, les cadres auront tout un discours en disant les règles de sécurité ne rentrent pas dans la tête des ouvriers. Juste une anecdote un peu pour démentir ce point de vue. C'est moi, quand je suis arrivé sur un chantier avec un collègue très sympathique, très pédagogique, qui m'apprenait comment faire, on décoffre un premier plancher, on enlève les étais, donc ces lourdes tiges métalliques qui soutiennent les planchers, on les enlève. Il me dit tu les allonges par terre, c'est comme ça la règle de sécurité. Je fais d'accord, très bien. Deuxième plancher qu'on décoffre, il me dit tu les mets contre le mur. Debout contre le mur, alors qu'il m'avait expliqué que c'était dangereux parce que ça risquait de tomber. Mais il me dit, tu les mets contre le mur parce que tout à l'heure je t'ai montré la sécurité, maintenant je te montre la cadence. Donc la règle, il la connaît suffisamment pour savoir qu'il l'enfreint. Et s'il l'enfreint, c'est pour respecter les exigences de cadence et c'est pas lui qui les pose.
Et ces contradictions n'arrivent jamais jusqu'en haut ? Elles sont toujours jusqu'en haut, je veux dire au cadre, au patron et aux risques réels qui sont pris ?
Rarement. Je cite un moment dans le bouquin, un épisode où justement les ouvriers refusent d'assumer clandestinement cette contradiction et refusent de travailler parce que, en l'occurrence, le chantier est verglacé. Il fait beau, mais il fait très froid. Le chantier est complètement verglacé parce qu'il a neigé les jours précédents. Mais comme il fait beau, la direction du chantier veut faire travailler. Comme le chantier est verglacé, un certain nombre d'ouvriers refusent. Et donc là, à partir du moment où ils décident de se réapproprier en quelque sorte la gestion de leur propre sécurité, ils se heurtent à la direction et ça finit en grève, en mouvement social, pour cette raison, avec un chef de chantier qui vient haranguer les ouvriers et qui dit d'abord vous commencez à m'emmerder avec la sécurité, qui dit ensuite arrêtez, je suis le premier concerné par la sécurité, donc qui continue à revendiquer en quelque sorte le monopole de la gestion de la sécurité et de dénier aux ouvriers la possibilité de gérer par eux-mêmes et pour eux-mêmes leur sécurité.
Alors, on voit l'interaction entre les chefs de chantier et les ouvriers, mais il y a un troisième acteur, ce sont les inspecteurs des chantiers, du travail, qui viennent régulièrement et qui finalement, d'après votre enquête, semblent n'avoir aucune prise sur la réalité, puisque lorsqu'ils sont là, on fait une sorte de mise en scène de la sécurité, une sorte de parodie du travail pour que tout ait l'air juste.
Oui, c'est assez fascinant de voir que quand il y a donc quelqu'un de l'office de prévention du BTP, et a fortiori quand il y a un inspecteur du travail qui lui a en plus le pouvoir d'arrêter le chantier s'il observe que les règles de sécurité sont trop manifestement transgressées, là on ralentit énormément, on travaille dans les règles de l'art. Moi, j'ai découvert à ce moment-là, puisque sinon j'étais habitué à ce qui se fait habituellement. Je me souviens d'un cadre qui s'écarte un peu de l'inspectrice de l'OPP-BTP et qui vient me faire signe de bien planter des clous comme il faut, comme j'ai pas du tout eu l'habitude de le faire et comme je le referai plus jamais après. Donc voilà, il y a une sorte de parodie du travail de chantier qu'il aurait présenté. Après, la parodie n'efface pas toute trace de réalité non plus. Surtout, ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est que donc ces contrôleurs qui viennent vérifier que les règles de sécurité sont respectées ou pas, ne sont pas du tout vus comme des protecteurs ou des sauveurs par les ouvriers du bâtiment qui ont tendance à les mépriser. Et parce que si jamais ces contrôleurs font des remarques et disent il faut mieux respecter les règles de sécurité, pour les ouvriers, dans la mesure où les exigences de cadence seront à changer, ça représentera un surcroît de travail. Et dans tous les cas, que ce soit des règles imposées par les directions ou ces contrôleurs de l'extérieur, leur propre savoir-faire en matière de sécurité, leur propre capacité à organiser leur sécurité reste écartée, mise de côté.
Vous racontez aussi l'histoire de Bemba, qui est un ouvrier qui, au moment où l'inspection passe, il veut pas recevoir les masques, des éléments de sécurité qui ne sont pas distribués tous les jours. Mais lui, donc, il dit non, je vais pas mettre aujourd'hui parce qu'il y a un inspecteur plus que ce que je mets d'habitude. Et en même temps, en faisant ça, il risque son travail, il va se faire virer.
Voilà, lui, c'est donc en l'occurrence, il refuse la parodie, il refuse le faux semblant. On lui a jamais donné de masque, on lui refusait de lui donner des masques. Moi, c'est la même chose. Quand je demandais des bouchons pour mettre dans les oreilles, quand je faisais du marteau piqueur, on me regardait un peu d'un drôle d'air, comme si j'étais pas un rude gaillard. Donc là, lui, il refuse. Petit refus, petite révolte individuelle, comme on trouve souvent, un working class hero, comme on entendait tout à l'heure. À son niveau, mais avec le risque, il est intérimaire, avec ce statut que je disais tout à l'heure, où il peut être envoyé du jour au lendemain, donc il prend un risque évident.
Alors, je vous propose de retrouver Aldo Ferrari, donc secrétaire syndical de l'UNIA, au micro de Blaise Angèle.
Là, la question, je la pose aux syndicalistes. Qu'est-ce qu'on pourrait, désigner, soulever ? Quelle lièvre pourrait-on soulever dans le monde de la construction en Suisse aujourd'hui ?
Je pense que le lièvre qu'on doit soulever dans le monde de la construction, c'est la sous-traitance. Le fait de séquencer le travail et de sous-traiter une partie du travail qui est fait par les ouvriers de la construction à d'autres ouvriers qui, eux, travaillent dans des petites unités avec des employeurs souvent sans scrupules, je pense que c'est un des gros problèmes. Et puis l'autre problème, c'est celui de la qualification et son corollaire, la sécurité. Où là, il est important qu'on fasse d'énormes efforts de formation et de qualification. Ce monde en a besoin. La qualité de la construction suisse reconnue en comparaison européenne en a besoin aussi. Alors j'aurais envie de rajouter que la solidarité qui existe dans ce milieu-là, je l'ai retrouvée à peu d'endroits ailleurs et que c'est important que le syndicat travaille pour la conserver parce que ce sont des hommes rudes qui parlent pas toujours, qui ont un cœur gros comme ça.
Nicolas Genin, je trouve que Aldo Ferrari soulève deux aspects très intéressants. D'un côté, effectivement, cette situation de sous-traitance qui implique beaucoup de précarité, beaucoup de dépersonnalisation. En fait, on ne sait plus, on utilise la force de travail de façon presque anonyme. Et de l'autre côté, il évoque quelque chose qu'on imagine tous dans ce monde, la solidarité. Abordons d'abord la sous-traitance. Vous l'avez remarqué aussi, c'est une partie du problème.
Oui, tout à fait. Donc moi, je connais pas du tout le bâtiment suisse. Je découvre grâce à vous. Visiblement, il y a des choses très similaires à ce qui se passe en France. La sous-traitance, telle que se développe depuis 30 ans, sert, quand on interroge les responsables des entreprises générales qui sous-traitent, ils le disent clairement, sert d'une part à faire baisser, à avoir une variable d'ajustement, c'est-à-dire que plutôt
à faire baisser les prix, non ?
Alors, il y a ça, faire baisser le coût du travail, mais aussi, l'activité du bâtiment est assez variable. Plutôt que de faire un plan social qui serait coûteux au moment où l'activité diminue, on se sépare d'une entreprise qui sous-traitante qui, elle, aura à faire son plan social et qui, généralement, le fera par le biais de l'intérim, ce qui évite aussi de faire un plan social. Juste, on licencie les personnes. Et puis, l'autre chose, c'est de faire baisser le coût du travail. Comment est-ce que c'est possible de faire baisser le coût du travail alors que l'activité est la même, alors que en plus il y a un employeur intermédiaire qui prend lui aussi sa commission, sa part de profit? Eh bien, parce que les droits des travailleurs sous-traitants vont être moins importants, vont être rabotés, et très souvent le sous-traitant va entrer dans des formes d'illégalité. C'est pas forcément une activité entièrement clandestine. J'ai pas vu d'activité entièrement clandestine là où j'ai travaillé, mais des formes d'illégalité, comme sur les contrats dans ce que j'ai décrit tout à l'heure, que l'entreprise générale, donneuse d'ordre, ne veut pas se permettre pour rester avec, en quelque sorte, les mains propres.
Donc, en fait, on vend, entre guillemets, une marchandise qui s'appelle la force de travail. Donc, l'ouvrier, il propose ça et c'est revendu plus loin par l'agence intérim. Ça, c'est pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En même temps, cette marchandise, vous le faites bien comprendre, n'est pas comme une autre marchandise puisqu'elle est imprévisible. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent se tirer, tomber malade, ne plus venir, pas tenir parole, etc. Donc, c'est une sorte de commerce assez particulier.
C'est le problème principal de l'intérim qui vend une marchandise qui est libre, qui reste quand même théoriquement libre. Je pense à une commerciale d'intérim, je l'écris dans le livre, qui me disait « je préférerais vendre des savonnettes ». Oui, parce qu'une savonnette,
ça bouge pas.
Une fois qu'elle est produite, ça bouge pas, ça reste dans le stock et on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on peut fournir. En revanche, la force de travail, bien que ce soit constitué en marchandise par le droit du travail, par le fonctionnement de l'institution d'un marché du travail, ce n'est pas complètement une marchandise. Puisque quand l'ouvrier, l'intérimaire, le vendredi soir dit « je vais aller au chantier lundi matin pour travailler », ça n'est qu'une promesse et il peut se dédire, il peut, s'il a trouvé mieux, aller ailleurs, et on ne pourra pas non plus le poursuivre, on ne pourra pas dire on m'a volé ma marchandise, parce que c'est quand même derrière un être humain qui est quand même libre d'aller où il veut. Et donc ça, c'est le principal problème des employeurs du bâtiment, en particulier des agences d'intérim. Comment elles font pour du coup s'assurer la fiabilité de cette marchandise qui reste imprévisible? C'est notamment en prenant des gens, en essayant de leur donner un certain nombre de faveurs pour essayer d'en retenir certains, et puis aussi en prenant des gens qui sont davantage contraints, qui n'ont pas d'autres opportunités, donc des étrangers précaires et parfois sans papier. Là, un nouveau, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui arrive en Chine, aussi, en Suisse.
En Suisse, en Chine sûrement aussi. Ça sera l'objet d'une autre mission.
Oui, c'est ce qu'on appelle la prestation transnationale de services, qui a été particulièrement débattue en France au moment de la directive Bolkestein, où donc on a des travailleurs détachés par des entreprises étrangères dans le pays. Le principal problème n'est pas forcément tant le coût du travail, puisque légalement, en tout cas, les ouvriers doivent être payés pareil que les ouvriers sur le territoire. La principale question, et c'est ça qui rend le dispositif intéressant pour les entreprises, c'est celle de la liberté du travailleur, c'est-à-dire que le travailleur détaché, en dehors de son contrat de travail avec son employeur, son entreprise polonaise par exemple, n'a pas le droit de travailler en France. Mmh. Donc il est un peu prisonnier de cette relation de travail avec son employeur, et c'est cette prison qui le rend, qui facilite la discipline.
Je vous remercie Nicolas Jounin, nous sommes déjà au terme de cette rencontre. Chantier interdit au public, enquête parmi les travailleurs du bâtiment, c'est aux éditions La Découverte.
Pour obtenir une copie de l'émission, composez dès maintenant le 026 323 24 24.
J'ai envie de laisser nos auditeurs avec une question. On a beaucoup parlé de sous-traitance, de précarité, de difficulté du travail. Comment est-ce que dans ces conditions, on peut encore espérer la loyauté et la solidarité de l'ouvrier sur le chantier lorsqu'il y a crise ou difficulté, ce dont nous sommes jamais à l'abri? Il est 11h sur la première. Belle journée à vous.